RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Émission aussi à suivre sur Twitter avec le hashtag Mardi politique. Bonsoir Frédéric Rivière. Ensemble, nous recevons Christiane Taubira. Bonsoir.
Bonjour madame.
Ancienne garde des Sceaux. Merci d'avoir accepté cette invitation car vos apparitions médiatiques sont rares. Vous avez été une ministre qui a marqué, une personnalité qui a marqué les esprits, adulée, admirée, comme détestée, attaquée. Vous avez mené la bataille du mariage pour tous, à un moment fort de la vie politique. Vous n'êtes plus stricto sensu dans la vie politique. Pour autant, est-ce que vous restez engagée dans l'action publique?
Je reste engagée en tout cas dans la vie politique au sens de la proximité avec les citoyens, au sens d'une contribution à la compréhension, à la clarification des grands enjeux, au sens aussi d'une transmission de génération parce que je vais très très volontiers rencontrer les jeunes en France, les jeunes en Europe, les jeunes dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud.
Vous leur parlez de quoi ?
Les jeunes, des sujets qui les intéressent parce qu'en général ce sont eux qui demandent, J'ai de très nombreuses demandes, mais j'ai décidé arbitrairement de privilégier les jeunes, donc je réponds plutôt à ces demandes-là. Ils demandent des choses qui concernent l'état de droit, son fonctionnement, ses principes de base. Ils demandent des choses sur les libertés, la sécurité, leur conciliation, mais aussi des choses sur l'histoire des luttes de femmes, par exemple, pour l'égalité, des choses aussi sur les grands enjeux internationaux, des choses sur les institutions, des choses sur la gauche et son avenir. Donc les demandes sont de nature différente. Alors je suis aussi très sollicitée sur des thématiques judiciaires ou pénitentiaires très, très précises, notamment sur le trafic d'organes et la façon de lutter contre cela.
Ah, c'est un peu le programme d'ailleurs, Frédéric, qu'on a prévu avec vous, tous ces sujets que vous avez listés.
Vous ne pensez pas aujourd'hui ou vous pensez que vous ne pourriez plus peser sur le débat politique en France? Il y a des gens, Roselyne l'a dit, des gens qui vous aiment, des gens qui vous adorent, il y en a d'autres qui vous détestent. Mais enfin, pensons à
ceux... Je ne laisse pas indifférent.
Voilà, pensons à ceux qui vous aiment. Vous pensez que vous n'aviez plus de choses à dire, vous ne pouviez plus peser sur le débat politique?
D'abord, je dis les choses, puisque je donne ces conférences, je les donne très fréquemment, je les donne dans des universités françaises, mais je le disais à l'instant, beaucoup à l'étranger. Je participe à des rencontres dans d'autres domaines, des débats publics, des choses comme ça. Donc j'estime effectivement que les combats que j'ai livrés et l'expérience que j'ai accumulée me donnent d'une certaine façon obligation morale de transmettre et de partager. Donc je le fais très volontiers. Je ne vais pas effectivement dans les médias malgré des invitations pratiquement quotidiennes que je décline quand je peux parce que je suis submergée, mais quand je peux je décline avec beaucoup de respect parce que je n'ai pas envie de participer au bruit de fond. Je n'ai pas envie d'être dans la parole qui s'envole d'une certaine façon, dans la parole un peu légère, même si ça traite des sujets de fond, mais dans des conditions tellement rapides, tellement superficielles. Donc voilà, je pense que je dois transmettre encore. Je le fais à travers des livres, je le fais parfois par des tribunes, mais je n'ai pas envie de le faire dans des querelles politiques ou dans du surf.
Voilà. Alors, vous dites, j'ai livré des combats. Le pouvoir, vous le savez mieux quiconque, peut brûler, peut détruire. Et il peut aussi amener au dépassement de soi quand on fait des choses et qu'on arrive au bout. En tout cas, le pouvoir, c'est une matière inflammable. Vous en avez retiré quoi, dans le fond, de cette expérience au ministère, à la chancellerie?
Alors déjà, je n'ai aucun regret d'avoir été confrontée à cette expérience à la fois individuelle et collective. Je suis vraiment très très reconnaissante d'avoir pu diriger un ministère régalien, donc d'avoir été en charge de la Constitution d'abord. Et c'est une des raisons de mon départ, de ma rupture, c'est qu'il y avait une agression qui se préparait contre la Constitution et donc contre les citoyens qui sont protégés par cette Constitution. Donc exercer un ministère régalien, ça vous oblige à vous élever à la hauteur de ce que vous devez, pas forcément de ce qu'on attend de vous, mais de ce que vous devez à la société. Et ce que vous devez à la société vous conduit à interroger le bien commun, la morale publique, l'intérêt général, la nécessité d'arbitrer, de décider au mieux et en conscience, et aussi de rendre intelligible l'action publique. Donc j'étais extrêmement heureuse d'exercer cette responsabilité. Ça change quelque chose de prendre une décision, de savoir que cette décision a des effets sur le quotidien des gens. Ça change quelque chose d'être confronté à la fois à sa conscience, mais aussi aux divergences d'intérêts, à des réseaux d'influence, de savoir percevoir ces réseaux, de savoir résister à des demandes qui peuvent paraître raisonnables et qui en fait sont un peu égoïstes ou corporatistes. Donc voilà, c'est une expérience extrêmement riche, extrêmement dense. Je suis heureuse de l'avoir vécue.
Et humainement, elle est âpre.
Oui, bien entendu. Ouais. Oui, bien entendu. Et vous avez raison de dire que le pouvoir peut brûler. Parce que aussi, on peut se laisser emporter par le vertige de la capacité à décider, à faire et à défaire. Mais si on perçoit le pouvoir comme le fait de pouvoir.
Un levier, oui.
Voilà. Le fait de pouvoir. Ouais. Là, on est d'abord constamment travaillé, on a la conscience constamment en éveil et on est travaillé sans cesse. J'ai toujours, dans mes engagements politiques qui ont précédé mon expérience ministérielle, j'ai toujours été préoccupée par la probité, au sens de comment je ne triche pas avec ma propre conscience, d'une part. D'autre part, la socialité. Au sens où comment ceux pour qui j'agis comprennent bien ce que je fais.
On peut être un politique et ne pas tricher ?
Oui, bien entendu. Puis, bien entendu, moi j'ai une très haute idée de la politique et je crois qu'on doit avoir une très haute idée de la politique. Sinon, c'est la fin de la vie sociale, c'est la fin de la cité. Hein, au sens de lieu où nous vivons ensemble. C'est la fin si on ne croit pas à la politique. Et il faut recommencer à penser que la politique est vraiment le lieu le plus élevé où nous construisons notre vie ensemble.
Alors, vous êtes parti, vous le disiez, parce qu'on allait attenter, en quelque sorte, à la Constitution. C'était la déchéance de nationalité. Et depuis, beaucoup sont partis. Et le monde politique a été éclaté façon puzzle, comme disait Audiard. Est-ce que, pour vous, cette expression de nouveau monde, ancien monde, elle a un sens ?
Non, en tout cas, il n'en a pas tel que c'est utilisé. Évidemment, il y a un ancien monde, il y a une ancienne économie, par exemple, et nous n'avons pas su anticiper les nouvelles filières économiques ni les nouveaux modes de fonctionnement de l'activité économique. Donc oui, il existe un ancien monde et un nouveau monde, mais cette façon de dire que le monde démocratique où les idéaux se confrontaient, où la décision politique pouvait être inspirée par une conception de la société, par une vision des relations dans la société. Non, c'est pas l'ancien monde. C'est le monde actuel et ça reste le monde de l'avenir.
L'idée qui est un peu, finalement, qui sous-tend cette notion de nouveau monde, ancien monde, dans l'esprit des proches du président de la République et peut-être de lui-même, c'est qu'au fond, tout ce qui n'est pas autour de sa démarche est ringard.
Oui, mais moi, peu importe. Moi, je n'ai pas de capacité, enfin, je n'ai pas de compétences, je peux en avoir, pour analyser ce que ça représente d'avoir une figure centrale autour de laquelle tout gravite. Moi, je ne pense pas ainsi. Je pense individuellement, au sens où je suis très attachée à l'émancipation de l'individu, au fait de construire une pensée autonome, au fait de s'enrichir de la pensée des autres dans le passé, mais aussi les autres qui sont nos contemporains. Donc pour cela, j'ai cette pensée individuelle, mais c'est une pensée individuelle qui s'harmonise avec les dynamiques collectives. Donc moi, je ne pense pas que quelqu'un, quelles que soient ses qualités, ça n'est pas le...
Il n'y a pas d'homme providentiel, en fait.
C'est non, l'idée je n'ai de pas de vision.
Du,
je n'ai
du
pas
Deus de... ex machina qui sort de la machine et qui va arranger les affaires de tout le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'Emmanuel Macron a tout de même participé à dépolitiser la vie politique, un peu comme l'avait fait De Gaulle après 58, c'est-à-dire un paysage où, dans le fond, aujourd'hui, la droite est cornérisée parce qu'elle a récupéré ipso facto les électeurs du Front National. Le PS est à l'hôpital. Quand même, ce paysage politique, il est dévasté.
Oui, incontestablement.
Vous pouviez l'imaginer une telle...
Incontestablement. Alors moi, je n'ai pas de vision messianique de la politique, donc je ne crois pas à un homme providentiel ou à une femme providentielle. Je crois qu'il y a des équations personnelles, je crois qu'il y a des opportunités, qu'il y a des conjonctions de circonstances, je crois qu'il y a aussi un génie individuel qui permet de concevoir, d'abord de saisir l'opportunité, ensuite de concevoir une stratégie qui sera efficace. Je crois à tout cela, mais je ne crois pas à un homme ou à une femme providentielle.
Dans l'histoire, parce qu'on peut penser aujourd'hui à... On pense à De Gaulle, on parle à Churchill, il y a eu quand même dans des moments de difficulté de l'histoire des hommes qui ont été providentiels.
Oui, c'est ce que j'appelle l'équation personnelle. Je ne les appelle pas des hommes providentiels. Je dis qu'il y a une circonstance où il y a une personne qui a l'étoffe et qui est en capacité de, mais en capacité d'entraîner. De Gaulle a conçu, en tout cas a mis en œuvre par ses ordonnances de 1945 principalement, le programme du Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que ce sont des femmes et des hommes qui se sont battus, qui étaient confrontés à l'urgence du moment, à la difficulté intense du moment, qui ont pensé la société d'après ce moment-là.
Absolument.
Et qui, voilà, De Gaulle avait cette équation personnelle, cette capacité d'entraînement, cette hauteur de vue aussi qui lui a permis de voir qu'il fallait prendre ce programme du Conseil national de la résistance. Donc je crois à ces choses-là incontestablement, mais pas à l'homme providentiel qui tout seul, par l'éblouissement de ses neurones et de ses capacités personnelles, peut entraîner ni tout un peuple, ni tout un monde. Je ne crois pas à cela. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Parce que ceux qui croient à ça, ils font le lit des dictatures, tout simplement.
Un mot sur un aspect des choses auquel, j'imagine, vous devez être sensible, puisqu'on a beaucoup dit qu'après François Mitterrand, les présidents de la République n'étaient plus des hommes de culture. On a notamment beaucoup dit de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, que c'était des personnes qui ne lisaient pas. A priori, personne ne conteste à Emmanuel Macron le fait d'être un homme de culture. Est-ce que vous avez l'impression que ça lui donne, en effet, une étoffe ou une dimension différente ?
Ces trois hommes ne sont pas comparables. Ni deux à deux, ni un à deux et à trois, non, ils ne sont pas comparables. Ce sont des personnalités, des parcours très très différents, des conceptions de la vie aussi. Incontestablement, le président de la République est un homme cultivé, c'est un homme qui réfléchit, qui lit manifeste. En tout cas, je veux dire, personne ne doute de cela.
Et à vos yeux, c'est précieux.
Est-ce que vous,
qui êtes une intellectuelle,
entendu, mais je crois en plus profondément que je dirais presque avec une grande brutalité qu'on n'a pas le droit d'être hissé à des responsabilités politiques si on se tient à l'écart de la culture. Parce que je crois profondément que toutes les formes d'expression culturelle et artistique sont nécessaires pour comprendre la vie des gens.
C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez l'impression que ça faisait une différence avec ce président. Le fait que ce soit
Je n'ai pas fini de vous répondre. J'ai commencé à vous répondre que d'abord moi je ne compare pas aussi facilement les gens parce que je crois beaucoup aux individualités. Ensuite parce que ce sont trois individualités très très différentes. Mais oui, ça fait une différence. Mais ça fait une différence aussi par rapport à d'autres. Ça fait une différence en soi. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, oui, c'est une personnalité singulière, qui a une trajectoire très singulière, qui a eu ce que j'appelais tout à l'heure le génie de l'opportunité, c'est-à-dire une capacité à saisir le moment, presque avec une majuscule, et à comprendre à partir de quelle stratégie on peut s'inscrire durablement dans ce moment. Donc ça, c'est absolument incontestable. Et c'est sûr que sa culture, son érudition, les réflexions qu'il a conduites les années précédentes, tout cela l'a aidé à cette perspicacité et surtout aussi à dire des choses, à dire tous les jours des choses qui font sens, qu'on approuve, qu'on n'approuve pas, mais qui font sens. Et bien sûr, à la tête de l'État, c'est mieux.
Et cette verticalité que certains lui reprochent, dont son surnom Jupiter, cette envie d'incarner réellement la fonction dans ce pouvoir jupitérien, dans ce pouvoir presque autoritaire, est-ce que comparé à François Hollande, qui c'est vrai était plus, par exemple avec les journalistes, plus copain, est-ce que vous trouvez qu'une attitude comme Emmanuel Macron investit plus la statue du président et non pas du commandeur?
Alors, je n'ai pas envie de commenter la personnalité du président de la République. J'ai envie de vous répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, et pardonnez-moi, je n'y ai pas répondu. Vous m'avez demandé s'il est responsable de la dépolitisation de la société.
Absolument.
Il y a incontestablement une dépolitisation dans la société. Il y a un vrai reflux de la conscience politique, du débat politique et de la passion pour la politique. Je ne dirais pas que M. Macron en est responsable, mais je pense que M. Macron en a beaucoup profité Parce que le discours du ni droite ni gauche, de droite et de gauche, de l'ancien monde, c'était un monde où il y avait des controverses et des disputes, et que on va sortir de cet ancien monde. Il en a profité et il a incontestablement, comment dire, intensifié ce mouvement. Je crois qu'il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte très très vite. Je pense que l'État doit être porté, en tout cas. Je dirais pas incarné, parce que quand on commence à dire incarné, voilà, on cherche un homme providentiel, une verticalité, un surplomb. Je ne crois pas à ces choses-là et je ne les crois pas souhaitables en démocratie.
Oui, c'est des mythes. Un
Par
peu,
contre,
c'est
la mythologie avoir une du pouvoir, conception de l'État. Moi, je préfère effectivement avoir un chef d'État qui a une conception de l'État, comme celle du président actuel de la République, que je peux combattre. Mais il y a au moins une conception de l'État. Il y a une pensée sur la façon d'utiliser l'appareil d'État, de mobiliser l'appareil d'État. Je ne partage pas cette conception-là, mais elle est claire, elle est cohérente, et donc je peux la contester. Je crois que c'est nécessaire dans la démocratie.
Vous êtes très attaché à la gauche, Christiane Taubira. Vous l'aimez, la gauche.
Et comment ?
Et elle est mal en point, la gauche.
J'en conviens.
En France, et pas seulement, dans d'autres pays d'Europe.
L'Italie,
le président. De quoi la gauche s'est-elle coupée ? Qu'est-ce qu'elle a abandonné pour se retrouver dans cette situation de rejet aussi fort ?
Elle s'est coupée d'elle-même. Elle s'est coupée d'elle-même, elle s'est coupée de son histoire, elle s'est coupée de sa raison d'être, elle s'est coupée de sa propre vitalité, elle s'est coupée de ce qui fait
la raison de son existence.
Oui, oui, elle a oublié son histoire, la gauche, en tout cas la gauche française. Les gauches européennes ont d'autres trajectoires, ont d'autres histoires, mais la gauche française, elle s'est créée sur à la fois la question sociale et la question démocratique. Oui. La question sociale, les conditions de travail, la durée du travail, la rémunération du travail, l'âge du travail, en 1841 quand même en France, les enfants de 5 ans travaillaient. Jean Ferrat chante les enfants de 5 ans qui travaillaient dans les mines. En tout cas, les débats, c'était est-ce que on autorise le travail des enfants de 5 ans ou de 8 ans ? On était là quand même il y a moins de 2 siècles. Elle s'est coupée de ça. La question démocratique était la question d'une société égalitaire. C'était aussi le projet de la gauche. En tout cas, c'était une ligne de fracture entre les progressistes et les conservateurs dans l'histoire de la France.
Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on disait qu'effectivement partout, beaucoup en Europe, enfin en tout cas même aux États-Unis, Clinton n'a pas été élu, en Grande-Bretagne, c'est Jeremy Corbyn, le Mélenchon local, qui prend plutôt la lumière, l'Italie, ça, presque l'effacement de la gauche, également en Allemagne, elle recule. En France, on connaît, mais il n'y a jamais eu autant d'inégalités en France, enfin dans le monde. Oui. Et la gauche recule. Est-ce que c'est pas paradoxal ?
C'est paradoxal.
Alors peut-être incompréhensible.
Il faut qu'on commence à dire non, c'est très compréhensible parce que lorsqu'il y a des renoncements, lorsqu'on ne porte plus des idéaux, lorsque on n'ose plus dire qu'on se bat pour qu'on croit à l'égalité, qu'on se bat pour l'égalité, qu'on ne s'accommode pas d'un monde d'injustice, qu'on ne dort pas tranquille en sachant que il y a de la famine, qu'il y a des personnes qui dorment dans la rue, qu'il y a des enfants qui ne font pas un repas par jour, qu'il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui sont obligées d'aller dans les épiceries sociales. Si on n'est pas capable de dire que mais ça n'est pas tolérable et je ne peux pas avoir une tranquillité d'esprit en vivant dans un monde pareil, oui.
Il y a des gens qui l'ont porté, ce message, en France, encore ces derniers mois. Jean-Luc Mélenchon, finalement, il ne dit pas autre chose.
C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à parler des gauches. Il faut qu'on commence à parler des gauches, justement, parce qu'on dit la gauche, et puis après, on dit Mélenchon ou Corbyn, vous n'avez pas dit l'extrême gauche, en fait.
Non.
Vous avez dit, plus que vous avez dit. Mais il y a des gauches. Il y a des gauches.
Oui.
Et je pense qu'il faut que les gauches recommencent à avoir une conscience de solidarité, d'action et de combat, avec des sensibilités différentes, avec aussi une conception du pouvoir différente, avec une notion des priorités différentes, mais avec quand même un fondement commun. Et c'est à partir de là que la gauche va ressurgir. Sinon, on va toujours avoir des personnes qui restent très fidèles aux idéaux de gauche, mais qui, par leur conception du pouvoir, par leur choix de rapport à la société, vont peut-être rester relativement marginales. Et puis, vous aurez toujours des personnes de la gauche réformiste qui voudront accéder au pouvoir, mais qui peut-être seront prêtes à faire tellement de concessions qu'elles ne ressemblent plus aux idéaux de gauche. Donc, il faut que nous repensions les gauches et leur avenir.
C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans un instant, Christiane Taubira. Juste après, un petit point sur l'actualité. À tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec notre invitée Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux. Donc on parlait avec vous de la gauche, dans le fond, de l'avenir de la gauche. Vous parliez de fondement commun à la gauche. Comment peut renaître la gauche dans ce pays? Mais est-ce qu'elle n'a pas un problème, cette gauche, avec le pragmatisme, avec le réel? Et en clair, est-ce qu'elle n'est pas condamnée à décevoir quand elle gouverne? Vous avez lu, j'imagine, L'ambition et le remords, ce bouquin des deux historiens du PS, Bergougnou et j'ai oublié le nom de son co-auteur, qui explique que dans le fond, la gauche, quand elle gouverne, elle pense trahir. Est-ce qu'il n'y a pas chez les socialistes, par exemple, cette espèce de surmoi en permanence qui les empêche
Probablement, mais je vous dirais que peu m'importe. Ce qui compte, c'est est-ce que nos sociétés et le monde ont besoin de la gauche? Oui. Oui, sans la moindre hésitation, parce que en plus, on n'a jamais vécu une période où il y a une telle accumulation de richesses dans le monde et de tels fossés entre ceux qui possèdent et ceux qui sont exclus de tout, exclus de l'éducation, exclus de l'accès aux soins, exclus de l'accès aux droits, exclus de la culture, exclus de tout. Il n'y a jamais eu un tel fossé. Donc c'est la gauche qui porte l'ambition d'égalité. Donc que des partis politiques ou des espèces d'écuries fassent une introspection, c'est nécessaire, il faut se poser la question, il faut examiner les choses de la façon la plus honnête et la plus rigoureuse. Mais franchement, ça n'est pas mon souci. Mon souci, c'est vraiment avec quelle urgence on ressent bien la nécessité pour la gauche d'être en capacité d'agir. Et pour agir, il faut le pouvoir. C'est ça c'est à cela.
Donc le réel.
C'est ça. Oui, mais le réel, c'est de décider que très clairement, on n'accepte pas une société d'exclusion.
Mais d'ailleurs, vous dites, Christiane Taubira, que vous détestez le pragmatisme.
Ah oui, ça me met en rogne.
Bon, mais voilà. C'est une forme de posture intellectuelle ou c'est aussi une posture réelle et finalement pragmatique en quelque sorte de dire.
Non, c'est pas une posture. Ça n'est pas une posture. C'est parce que c'est un des chemins et probablement le chemin principal par lequel la gauche s'est perdue.
C'est ça, elle s'est ruinée de cette
manière. C'est pour ça que je ne supporte pas ce pragmatisme. Lorsque la gauche a commencé à renoncer à sa capacité d'action, à renoncer au courage de dire, mais oui, mais nous accédons au pouvoir pour réduire les inégalités et pour atteindre à l'égalité. C'est pas la même chose, de réduire les inégalités et de se battre pour l'égalité. Lorsque la gauche a cessé de dire que pour nous, la liberté, c'est précieux. Lorsqu'elle a cessé de dire que les droits de l'homme, ça compte. Oui. Lorsqu'elle a cessé de penser que l'hospitalité est un acte de fraternité et un acte tout simplement d'humanité au sens de vie normale de l'être humain. Lorsqu'elle a cessé de penser ça ou cessé d'avoir le courage de le dire, elle a recouvert tout ça de pragmatisme.
Sur l'autel du pragmatisme.
Voilà, nous sommes confrontés au réel, nous sommes obligés d'admettre que finalement l'immigration, c'est le grand problème de la France. Non, le grand problème de la France, c'est le manque d'emploi, c'est le manque de solidarité, c'est le manque d'accès à la culture, c'est la question de l'éducation. C'est la question de l'ouverture sur le monde. C'est la question de la connaissance des grands débats philosophiques et donc de la construction de sa vie en tant que sujet de droit. C'est ça les grands problèmes. Donc lorsque la gauche a renoncé à tout ça au nom du pragmatisme, elle a entrepris sa descente aux enfers.
Mais quand est-ce qu'elle a renoncé à ça, d'après vous? Vous le datez de quand?
je vous vois venir. Je crois que ça a commencé, c'est paradoxal, parce que c'est sous un gouvernement de gauche qui était vraiment de gauche. D'accord. Et qui a eu... je pense que les explications sur les limites de l'action publique ont commencé vers la fin de Jospin.
La fin de Jospin?
Oui. Oui. Alors, ça n'était pas théorisé, ça n'était pas conceptualisé. La conceptualisation, elle vient plus tard, elle vient au sein du Parti Socialiste, avec ce qu'on appelle l'aile droite de la gauche au sein du PS. Mais je vais être très, très sobre là-dessus, parce que je suis pas membre du PS.
Non.
Non, jamais été, voilà.
Non,
même si j'y ai beaucoup d'amis aujourd'hui encore, pour ce qu'il reste.
Oui, il n'y en a pas beaucoup.
Mais voilà, c'est quand voilà, il y a eu l'aile droite du PS avec une parole politique un peu raide, rigide.
Pensez à Manuel Valls.
Entre autres. Oui. Entre autres. En tout cas, effectivement, il fait partie des figures repérables.
On peut peut-être aborder la question des femmes, qui est un sujet qui a beaucoup animé l'espace public ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les fameux hashtags qu'on a entendus, balance ton porc, MeToo. Il y a des tas de choses à dire sur le sujet, vous êtes d'ailleurs parfois exprimé. Vous avez dit dernièrement que, pour vous, le temps était venu pour les hommes de faire l'expérience de la minorité.
J'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous la faites sur le plateau?
Vous la faites au moins sur le plateau? En ce moment, je la fais, oui, en effet. Et vous savez d'ailleurs que...
En conscience, il faut la faire
RFI
en conscience.
Et France 24, nous n'avons pas de problème de cet ordre-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, pour vous, le but n'est pas d'atteindre directement l'égalité, mais que vous pensez qu'il y a une phase intermédiaire nécessaire qui est de faire connaître aux hommes l'expérience de la minorité?
Absolument pas. Je crois pas aux phases intermédiaires pour l'égalité. Lorsque dans le même interview, dans le même entretien, je dis que le droit de vote pour les femmes commence le jour même de... Voilà.
Bien sûr.
Voilà, simplement, elles l'obtiennent en 1945. Donc, pour moi, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Et ça, c'est un grand débat dans les courants féministes. Vous avez le courant avec, voilà, les différentes vagues et les explications des grands corpus de revendications, etc. Non, moi, je crois à l'égalité au sein de l'espèce humaine. Point barre. Le reste, ce sont des chemins. Le reste, ce sont des reculs. Le reste, c'est du manque d'ambition. Mais je crois à l'égalité au sein de l'espèce humaine.
Et
lorsque je dis que les hommes doivent faire l'expérience de la minorité, et j'ajoute en même temps, vous avez le lien, que je dis, parce que l'expérience de la minorité, d'abord, ça vous rend vigilant, ça vous donne des défenses, voilà, et ça développe la solidarité, etc. Donc, ça, c'est un, je veux dire, ce serait au chapitre des moyens, mais voilà, lorsque je dis qu'il est temps que les hommes fassent l'expérience de la minorité, je suis pas en train de dire qu'il faut que les femmes soient supérieures aux hommes. Je crois à l'égalité, point barre, l'égalité, voilà, c'est une notion absolue, l'égalité. Après, une fois qu'on la conçoit en tant que telle, après, on voit comment on fait en sorte de casser tous les mécanismes, tous les dispositifs qui entravent l'accès à l'égalité. Voilà. Mais ça vous fait de toute façon du bien, vous, aux hommes, de faire l'expérience de la minorité.
Quand vous dites le...
C'est enrichissant.
Vous dites le féminisme...
À condition d'en sortir.
Comme le journalisme.
Le féminisme est un humanisme, ce n'est pas une guerre de tranchées, vous dites.
Je pense, oui.
Vous le pensez?
Oui.
Parce que parfois, chez des femmes... Certaines femmes se trompent de combat dans le féminisme.
Je ne sais pas si elles se trompent de combat. Il y a tempérament. Le féminisme est un humanisme. Il nous concerne tous. C'est ce que je veux dire. Le féminisme est un humanisme, c'est-à-dire que c'est une cause de l'espèce humaine. Ça n'est pas une cause parmi d'autres. C'est la cause de l'espèce humaine. Donc non, ça peut pas être une guerre de tranchées. Si c'est une cause de l'espèce humaine, les hommes sont concernés par le féminisme. Comment nous progressons ensemble? Une civilisation au sens de civil, c'est-à-dire la civilité. Comment nous vivons ensemble? Comment nous percevons les uns les autres? Cela nous concerne tous, garçons et filles, hommes et femmes. Donc le féminisme est un humanisme au sens où le féminisme pose très clairement la question. Est-ce que sur un fait de nature, qui est un fait d'apparence, est-ce que sur un fait de nature, on peut justifier une inégalité, des discriminations, un changement de traitement, une différence de traitement? Est-ce que sur un fait de nature, on peut justifier ça? C'est non. Donc, il n'y a rien qui permette qu'on justifie l'inégalité et des traitements défavorables pour les femmes. Mais à partir du moment où on a évacué ce fait de nature comme motif pour justifier des inégalités, il n'y en a plus aucun qui tienne. Et c'est aussi en ce sens, à ce deuxième palier, que le féminisme est un humanisme. Parce qu'il crée les conditions pour éliminer tous ceux qui servent de prétexte aux discriminations. La religion ne peut plus servir à ça, la couleur de peau ne peut plus servir à ça, les affinités amoureuses ne peuvent plus servir à ça, le handicap physique ou mental ne peut plus servir à ça. Donc le féminisme en tant qu'humanisme crée les conditions pour évacuer ces motifs, ces prétextes d'inégalité.
Alors il a été beaucoup question des violences contre les femmes et je voudrais avoir votre avis sur cette pétition qui a été lancée pour que les récompenses qui ont été remises très récemment, il y a quelques jours, à un rappeur qui s'appelle Orelsan, pour que ces récompenses lui soient retirées. Il a obtenu 3 victoires de la musique. Ce qui est en cause, ce sont les paroles de plusieurs de ses chansons à la fin des années 2000. Je vais vous citer quelques exemples qui ne sont pas les pires. Je préviens que c'est assez cru et même très cruel et très dur. « Je te quitterai dès que je trouve une chienne avec un meilleur pédigré. »« Ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant », allusion bien évidemment à Marie Trintignant. Ou encore « Petite, essaie pas de me fréquenter ou tu vas perdre ton pucelage avant d'avoir perdu tes dents de lait ». Ce sont quelques-unes des paroles de ce chanteur. Encore une fois, ce ne sont pas celles qui ont été primées, il faut le souligner par honnêteté. Mais aujourd'hui, donc, un collectif dit « c'est pas possible, on ne peut pas récompenser quelqu'un qui a écrit ça ». Est-ce que vous pourriez, d'abord, est-ce que vous partagez cette indignation? Est-ce que vous pourriez signer cette pétition?
C'est pas de l'indignation, c'est... Je suis juste horrifié. Juste horrifié, c'est même pas concevable pour moi. D'abord qu'on pense cela, et qu'en plus on mette des mots sur cela, et qu'on rende ces mots-là publics.
Vous en restez sans voix.
Oui.
C'est vrai qu'on reste sans voix en entendant ça.
Mais je veux dire que ça a été enregistré. Je veux dire qu'il n'y a pas que cette personne, mais enfin, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette personne qui est capable de penser ça, ensuite de l'écrire, après de le dire. Et il y a des personnes qui publient ça et il y a des personnes qui écoutent ça. C'est tellement putride, c'est tellement.
On va parler des prisons que Christiane...
Habitude d'être aussi désarçonnée.
Vous êtes sous choc, en quelque sorte.
Et encore, on vous avez... C'est un
passage soft. Vous me dites que c'est pas le pire.
Non.
On ne le dira pas, mais enfin, il y a le pire, oui.
Les prisons, les gardiens de prison donc qui étaient donc en colère, ça s'est un peu apaisé. Bon, surpopulation, problème de radicalité des prisonniers islamistes. Nos prisons, c'est... sont une cocotte minute dans ce pays, ce qui révèle qu'une société va mal aussi. Vous, est-ce que finalement vous aviez raison? Pourtant, la droite s'était dressée quand vous aviez dit qu'il fallait pas systématiquement envoyer les petits délinquants en prison parce qu'il y avait pas assez de place.
C'était pas le motif. Oui. Voilà. Moi, j'ai de vraies raisons de penser que la prison doit être réservée aux situations où elle est utile et efficace.
Voilà.
Donc, une question de place. J'ai construit j'ai construit, j'ai eu trois plans triennaux de construction de prisons. Des prisons ont été livrées qui avaient été engagées par mon prédécesseur ou mes prédécesseurs, parce que ça peut être long. Moi-même, j'en ai construit. J'ai fait, quand j'étais en place, je crois qu'on avait déjà dépassé les 6000 places supplémentaires. Ce sont des sujets liés, bien entendu, mais ils sont pas liés par la causalité. Oui, j'avais raison. J'avais pas raison parce que je suis brillante et géniale. J'avais raison tout simplement parce qu'il y a des travaux depuis de nombreuses années, qu'il y a des personnes de très grande qualité qui, aussi bien sur le plan conceptuel que sur le plan de l'expérience, de la pratique et de la réflexion sur ces pratiques, ont pensé la peine, le sens de la peine, la sanction, l'exécution de la sanction, l'objectif de la sanction, la lutte contre la récidive, parce que la question c'est de savoir ce qu'on vise. La question c'est pas est-ce qu'il y a assez de places de prison, est-ce qu'il faut en faire 10 000, 15 000 ou 30 000 de plus.
C'est qui on y envoie.
La droite est très, la surenchère, et là aussi la gauche, au lieu de prendre le temps d'expliquer, elle se dépêche de dire mais moi aussi je vais en construire 15 000, vous voulez 40 000, mais moi vos 40 000 ils sont pas financés, moi mes 15 000 ils sont financés. Enfin c'est ubuesque, c'est pas ça le sujet.
Le sujet,
qu'est-ce que la peine dans une société démocratique? Comment on fait en sorte que la personne qui a...
Est-ce qu'on n'en ressort pas pire?
Mais c'est ça le risque. C'est pour ça que l'objectif doit être posé. Mmh. Est-ce qu'on vise juste, voilà, on est les plus sévères, on va montrer, vous la victime, vous êtes très très malheureuse, vous allez voir, on va le mettre en prison, on va jeter la clé. Non. Ouais. Nous sommes une démocratie avec un code pénal, il y a des courtes peines, donc il y a des personnes qui entrent en prison et qui vont en sortir. Que se passe-t-il lorsqu'elles en sortent? Donc l'objectif doit être de lutter contre la récidive. Et une démocratie doit s'interroger sur la prison. Quel est le sens de la prison? La privation de liberté. Qu'est-ce que ça représente de passer plusieurs mois ou plusieurs années privé de liberté et d'être lâché au bout de cette peine-là? Donc moi, le travail que j'ai fait, et c'est pour ça que je suis sûre d'avoir raison, parce que j'ai travaillé aussi sur 200 ans de l'histoire du droit de la peine en France, je me suis préoccupée de savoir, j'ai évidemment regardé les expériences ailleurs, à l'étranger, en Europe, dans les pays scandinaves,
en Suisse,
en Amérique, bien sûr, en Amérique du Nord, notamment au Canada.
De prison ouverte, d'ailleurs.
Voilà, et puis de la peine de probation, c'est-à-dire d'une sanction qui peut être prononcée et exécutée en dehors de la prison, dans la société.
Vous aviez appelé la contrainte pénale.
La contrainte pénale qui est inscrite dans la loi.
Mais alors,
dans le code
pénal. Elle est très peu appliquée, très peu utilisée par les juges. Pourquoi?
Alors, c'est à eux de s'en expliquer, parce que c'est une loi de la République et ils doivent l'appliquer. Maintenant, évidemment,
sans
le juge...
Il y a quelque chose de pavlovien chez le juge, c'est la prison automatiquement.
Non, mais je ne porte pas d'appréciation générale, parce que la question est de savoir si sur tel jugement... Lorsqu'un juge a prononcé de la prison au lieu d'une contrainte pénale, est-ce qu'il fait une erreur d'appréciation? Probablement que ça arrive, parce que statistiquement, il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas plusieurs cas qui mériteraient de façon plus efficace une contrainte pénale plutôt que 2 mois ou 3 mois ou 6 mois de prison. La contrainte pénale, elle est pensée, elle est encadrée. J'ai augmenté de 25% le corps des conseillers d'insertion et de probation de façon à ce qu'il y ait du personnel pour accompagner et veiller à l'exécution des obligations et des interdictions assorties dont la contrainte pénale est assortie. Si l'objectif, c'est d'avoir une peine qui fasse sens et qui soit efficace et qui donc empêche la récidive et qui donc permette à la personne qui a exécuté la sanction qui a été prononcée d'être dans la société sans devenir un danger pour la société, oui, il y a des cas où la contrainte pénale est plus efficace que l'incarcération.
Alors, il nous reste peu de temps, c'est un peu court pour parler du sujet des migrations qui sont presque aussi vieilles que le monde. Certaines dans l'histoire se sont bien passées, d'autres moins bien. Celles que nous vivons aujourd'hui sont tragiques, elles sont amenées à durer et surtout à s'intensifier. Comment l'Europe doit y faire face? Est-ce que l'accueil inconditionnel est-il la solution?
Alors, vous avez d'abord raison de dire que ça va durer. Ça va durer. Il faut qu'on comprenne bien que nous sommes dans une période de circulation humaine. Et ça va s'intensifier, parce qu'il va y avoir les migrations climatiques qui seront de plus en plus nombreuses. Donc, comment on fait face à cela? Nous portons le monde. Mon dernier livre s'appelle « Nous habitons la Terre ». Nous portons le monde. Donc nous devons être capables d'anticiper les grandes dynamiques du monde. Et parmi les grandes dynamiques du monde, il y a ces circulations. Qu'est-ce que ça veut dire l'accueil inconditionnel? Ça n'existe pas, l'accueil inconditionnel. Dans les démocraties, il y a un état de droit avec des règles. Et dans les pays européens, pour la plupart, il y a un droit d'asile. Ce droit d'asile est codifié. De quoi s'agit-il? Eurostat, l'année dernière, a indiqué que l'Europe avait accueilli 760 000 personnes. 760 000 personnes, moins d'un million de personnes. Moins d'un million de personnes en Europe. Selon le nombre d'un pays qu'on inclut dans l'Europe, on est entre 360 millions à 500 millions. Absolument, l'Allemagne a été... était admirable. Enfin, la chancelière.
Mais elle le paye. Elle l'a payé dans les élections.
Et ça fait partie des choses tristes de notre époque qu'elle paye électoralement le fait d'avoir été fidèle aux grands principes européens, fidèle à la façon dont les responsables politiques européens, notamment français et allemands, aussi belges, luxembourgeois et italiens.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle le faisait contre l'avis du peuple?
Capable de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On peut faire des choses bien contre l'avis du peuple. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on a expliqué correctement ce qu'on fait. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on a dit au peuple, j'y mets des guillemets, aux citoyens, que je demande à chacun individuellement d'entendre et de s'interroger. On a expliqué sur quel fondement, sur quel principe, sous quelle éthique qu'on prend une décision et qu'on dise aux gens ce qui est difficile. Ce qui est difficile. Pourquoi après on dit, ben oui, mais les gens ne veulent pas, on voit bien le résultat électoral, donc c'est une vraie mesure du mécontentement et du refus. Mais pourquoi les gens refusent ? Alors évidemment, il y a les racistes, évidemment, il y a les égoïstes, évidemment, il y a les mesquins, il y a tout ça, les nationalistes, bon, il y a tout cela. Mais si vous avez, si ceux-là qui sont à mon avis minoritaires arrivent à entraîner des mouvements de fond, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Donc ouais. C'est aux politiques de répondre. C'est parce qu'il y a des problèmes de pauvreté, c'est parce qu'il y a des problèmes de chômage, c'est parce qu'il y a des problèmes de logement, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là qu'on arrive à entraîner des tas de gens en disant mais on ne peut pas encore accueillir. Mais si l'Europe qui a élaboré la Convention des droits de l'homme, l'Europe qui a modernisé son droit d'asile, qui l'a sécularisé, n'est pas capable d'accueillir 1 million de personnes pour 520 millions de personnes, elle est en train de faire une démonstration de faiblesse assez angoissante.